France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les fonctionnaires sont appelés à se mobiliser ce jeudi. Grève unitaire contre la réforme à venir de la fonction publique. Réforme qui arrivera en débat à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Malgré 15 mois de concertation, les syndicats estiment ne pas avoir été entendus par le gouvernement sur la question du statut des fonctionnaires notamment. Des manifestations sont annoncées dans une centaine de villes en France. La transition écologique figure en première position du programme diffusé hier, programme de la liste macroniste Renaissance en lice pour les européennes. Il figure notamment la promesse d'investir 1 milliards d'euros d'ici 2024 pour développer les énergies et les transports propres. C'est utopiste, répond déjà Europe Écologie Les Verts. Florence Parly reconnaît qu'il y aura bien un prochain chargement d'armes sur le cargo saoudien qui se trouve actuellement au large du port du Havre. C'est en application d'un contrat commercial, assure la ministre des Armées. Elle précise qu'elle ne dispose d'aucune preuve pour affirmer que ces armes seront utilisées par Riyad ensuite dans la guerre au Yémen. La France encore qui fait part de sa préoccupation après la décision de l'Iran de s'affranchir de deux engagements de l'accord nucléaire de 2015. Le Quai d'Orsay exhorte Téhéran à éviter toute action susceptible de mener à une escalade. Donald Trump, le président américain, annonce lui déjà de nouvelles sanctions contre le régime iranien. Et puis le dossier syrien sera à l'ordre du jour d'une réunion d'urgence et à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sera demain, vendredi. Depuis février, les forces de Bachar el-Assad et leurs alliés russes bombardent les derniers territoires insurgés, des djihadistes notamment dans la province d'Idleb, sans épargner toutefois les écoles et les hôpitaux. La chef de la diplomatie européenne dénonçait hier soir une violation inacceptable du droit international. L'Europe enfin fêtée dans l'Union européenne en ce jeudi 9 mai, journée internationale de l'Europe. Les Restos du Cœur en profitent pour interpeller les pays pour un plan européen de lutte contre la pauvreté. L'association s'inquiète d'une possible baisse des fonds consacrés à l'aide humanitaire, ce qui aurait un effet catastrophique. Voilà ce que disent les Restos du Cœur.
Inédit, l'ami prodigieuse sur France Culture. L'Italie d'après-guerre dans un quartier populaire de Naples. Deux héroïnes inoubliables. La timide Elena, fascinée par l'aplomb, la révolte de la sauvage Lila. Proches, contraires, leur destin croisé. Suivons-les.
Il faut que tu continues tes études.
Mais j'ai fini.
Si au lieu de réparer les chaussures des autres, tu fabriquais des chaussures neuves.
Traduite dans le monde entier, la saga d'Elena Ferrante, d'une puissance littéraire inédite dans le paysage de la fiction, Amira Khazar dans le rôle de la narratrice.
Je ne suis pas nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. C'était la vie. Un point, c'est tout.
Le feuilleton du 6 au 17 mai à 20h30 et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture. Toufik Hakem est à vos côtés pour une demi-heure de culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Tous les jeudis, le réveil culturel se fait en musique. Et aujourd'hui, mon invité est Arthur H, qui vient de publier au Mercure de France un petit éloge de la fugue en trois mouvements, résumé par l'auteur lui-même, qui est bien gentil de faciliter ainsi la tâche des journalistes.
Fugue, action de fuir, de s'enfuir du domicile familial, sans prévenir. 1958, ma mère disparaît des radars. Avec ses camarades, elle quitte sa banlieue ouvrière. Leur but, c'est Tahiti. Mais ils atterrissent en Corse et vivent dans le maquis, sans rien. Fugue, 1982. J'ai 15 ans. Je m'enfuis aussi, sur un voilier, aux Antilles. Voyage psychédélique, initiatique. Fugue, 1740. Jean-Sébastien Bach commence l'écriture de l'art de la fugue. Une fugue à trois voix. Bach, ma mère et moi.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Bonjour Arthur H.
Bonjour.
On commence par Bach, comme ouais, dans le livre.
D'accord.
L'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, arrangement pour cordes et basses par l'Accademia Bizantina, dirigé par Octavio Danton, c'était en 2017. Fugue au pluriel est paru dans la belle collection Traits et portraits, dirigée par Colette Fellous au Mercure de France. Arthur H., le livre est composé de 3 fugues, celle de votre mère Nicole, à l'âge de 18 ans, qui quitte sa banlieue ouvrière d'Argenteuil avec une bande d'amis, à la fin des années 50, avec comme objectif fou, rejoindre Tahiti en radeau, mais ils vont échouer en Corse, dans des conditions d'ailleurs très comiques, on va en parler. Il y a à la fin de ce livre votre propre fugue, Arthur H., alors que vous n'aviez même pas 16 ans, quand vous étiez en vacances à Pointe-à-Pitre, vous refusez de prendre l'avion qui devait vous ramener à Paris avec votre père et votre frère, pour Tempère. Mais pour commencer, vous avez décidé de commencer par les fugues de Jean-Sébastien Bach. Pourquoi d'ailleurs ?
Oh, bah parce que j'ai une admiration fidèle à Bach depuis que je suis adolescent. En fait, j'écoutais du punk, du reggae, de la cold wave et du Bach. Et puis ça m'a jamais quitté. J'écoute plus de punk, mais j'écoute toujours du Bach. Donc voilà, c'est vrai que pour les musiciens, Bach, c'est vraiment quelqu'un qui est toujours inspirant, dans lequel on a toujours envie de se plonger dans son œuvre, de comprendre comment ça marche, d'être inspiré. Il y a une tonalité un peu cosmique, universelle qui me touche toujours. Voilà.
Mais est-ce que l'idée de la fugue, vous l'entendez dans sa musique et plus précisément dans l'art de la fugue? Parce que ensuite, quand vous parlez de Jean-Sébastien Bach, eh ben oui, c'était un grand fugueur. Hein. Il était prêt à marcher des kilomètres et des kilomètres pour assister à un concert. Et puis surtout, à la fin de sa vie, il a décidé d'explorer une musique abstraite et cosmique. C'est une forme de fugue.
Oui, ben en tout cas, c'est une question que je pose dans le livre. Quel est le rapport entre une fugue et une fugue?
Et comment ces 3 fugues dialoguent entre elles?
Ouais. Bah alors ça, j'ai trouvé un truc simple parce que j'étais dans ma petite roulotte tranquillement, pleine nature, avec dans ma vie, voilà, de sans aucun confort, mais dans une sorte de petit paradis comme ça. Et à un moment, il y avait une brume, quelque chose comme dans la nature, quelque chose d'assez mystérieux, une très belle lumière, un peu surnaturelle, un cheval blanc qui passe, parce qu'il y avait des chevaux en liberté tout autour de la roulotte. Et là, j'ai vu Bach apparaître en forme d'hologramme, et c'est là que j'ai eu l'idée de...
Il ressemble à quoi, Bach?
De lui raconter cette histoire, en fait. Bah, c'est un esprit qui... Je pense que si on croit dans l'éternité de l'âme, un esprit qui travaille énormément, qui a une obsession dans la vie physique, bah va garder cette obsession dans l'au-delà. Et du coup, dans l'au-delà, bah il a toujours besoin de composer des musiques, puisque la musique met l'univers en mouvement, donne une énergie, donne un sens, donne une direction. Et c'est ce que Bach fait toujours, donc dans l'autre monde, dans d'autres dimensions. Donc lui-même me demande de me raconter des histoires pour l'inspirer, parce que comme dans la vraie vie où il avait besoin des cantates, des fêtes et tout ça comme prétexte à la composition, là il a besoin de juste d'idées de départ, un mot, une situation, un espace pour pouvoir composer de la musique. Donc il me demande de raconter d'abord la fugue de ma mère et ensuite la mienne.
Et pourquoi la fugue? Est-ce que pour vous, quand je disais en préambule que c'était un petit éloge de la fugue, votre livre Arthur H., vous êtes d'accord?
Oui, bah déjà, alors la fugue musicale, c'est une forme assez précise, historique, disons, même si ça a été un peu utilisé après Bach, mais pas tant que ça en fait. Donc c'est un thème qui se répète, on brode autour de ce thème, on le transforme. Donc il y a quand même cette idée de transformation perpétuelle, quoi, d'espèce de mouvement sans fin, quoi, déjà dans la fugue musicale. Et après, dans la fugue, le fait de s'enfuir, il y a cette idée que je trouve qui me touche beaucoup, qu'on s'offre à soi-même, qu'on décide soi-même de sa propre liberté, qu'on n'attend pas qu'on nous l'offre sur un plateau, ou que c'est pas quelque chose d'acquis, quoi.
Un acte émancipateur.
Voilà, un acte et qui a une certaine violence aussi. Hein. C'est assez un acte assez radical quand même, parce que là, c'est violent une fugue, ça coupe. Ça veut dire quand même qu'il y a un vrai problème à la base qu'on n'arrive pas à résoudre. Mais il y a aussi une beauté dans le fait de dire voilà, maintenant ma liberté. Je la veux tellement que je me l'offre à moi-même. J'attends pas qu'on me l'apporte. C'est moi qui décide de l'heure, du moment de ma liberté.
Parlons de la fugue de votre mère. Quand vous racontez cette fugue, ouais. Pour vous, c'est clair que ça a été un moment fondateur de sa vie, de sa personnalité.
Ah bah oui, bien sûr, parce que bon déjà c'est un acte de courage quand même qui est tout sauf facile.
Parce qu'on est à la fin des années 50. Hein.
Ouais, voilà, c'est une jeune femme qui est très en avance sur son époque. C'est-à-dire que dans sa tête, elle est émancipée déjà, elle est libre.
10 ans avant mai 68, on peut
ouais,
pas me le préciser.
Ouais, 10 ans, et voilà. En fait, elle était vraiment comme une jeune fille d'aujourd'hui, comme une jeune fille aujourd'hui normale, disons, peut se sentir libre de faire ce qu'elle a envie de faire, bon, plus ou moins, quoi. Sauf que elle était en prison, quoi. C'est son milieu social, sa famille, le milieu socio-culturel dans lequel elle évoluait, ne lui laissait juste aucun droit. Aucune opportunité, et au contraire, la tenait prisonnière dans un sillon tracé qui était, pour elle, très morne, quoi, très sans air, sans joie aussi.
Elle voulait échapper à quoi ? Au carcan familial, à la tradition familiale, à la condition sociale ?
Ouais, tout ça, je pense qu'elle... à la fois, elle était très consciente et aussi très inconsciente en même temps. Mais avec voilà un espèce d'appétit de liberté qu'elle savait pas comment fabriquer cette liberté, donc le seul moyen c'était de dire voilà on part à Tahiti, parce que aussi dans, je raconte comment dans leur tête d'adolescent enfiévré, Tahiti c'est aussi hyper sexuel, quoi, c'est-à-dire c'est un endroit où tout d'un coup dans leur imaginaire on vit plus ou moins nu, et puis c'est à l'ancienne, quoi. C'est le Tahiti d'il y a 300 ans. C'est-à-dire, tout le monde fait.
Une fois de plus, on avance sur leur temps.
Non, mais il y a 300 ans dans le passé, quand les Blancs sont arrivés à Tahiti, puis que c'était, qu'ils ont eu l'impression que c'était l'amour libre, parce qu'effectivement, il y avait complètement un autre rapport au sexe et au corps. Donc, dans leur tête, c'est ça, quoi. C'est Tahiti, c'est. On n'aura pas besoin d'argent parce qu'il y a à manger partout. On n'a pas besoin de travailler. Donc, ils voient le travail comme quelque chose de vraiment terrible, quoi. Et puis, on pourra surtout, je pense, faire l'amour comme on veut, quoi. Il y a ça. Ils osent pas se le dire, mais c'est ça qui les motive un petit peu. Bon, ça se comprend. Hein.
Oui, tout cela se comprend. Il y a quelque chose quand même qui reste quand même assez incroyable. Ils pensaient réellement qu'ils allaient rejoindre le bout du monde dans une embarcation de fortune, Arthur H.
On est tous. Alors, comme ça, ils ont l'air très crédules. Effectivement, parce que on sait très bien que si on construit un radeau en Normandie ou en Corse ou à Cannes, ça va être très très difficile d'arriver à Tahiti. Enfin, ça va être impossible. On va mourir, on va couler avant. Et donc, on a l'impression qu'ils sont très crédules. Ils étaient très crédules, bien sûr. Mais on l'est tous, en fait. On croit tous à des illusions incroyables dont on est persuadé qu'elles sont très réelles. L'être humain est crédule, enfin naturellement, quoi. On l'est tous. En tout cas, à certains moments de notre vie. Donc, eux, je pense que surtout, ils ont voulu croire à cette idée, quoi. Et à partir du moment où tu veux croire à une idée, t'y crois. Si tu crois que Jésus a ressuscité le troisième jour, et ben, tu t'as envie d'y croire, parce que ça te touche, t'y crois vraiment, et pour toi, c'est vrai, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Dans toutes les religions, en politique, dans n'importe quel domaine, à partir du moment où on a envie vraiment de croire à quelque chose, on y croit, et puis, pour nous, c'est la vérité, tout simplement. Donc eux, ils étaient dans cet état. Et c'est aussi cette idée qui leur a permis de partir. Et après, ils l'ont abandonné, ceci dit. Ils ont abandonné l'idée de partir à Tahiti, parce qu'ils sont trouvés en Corse. Ils sont partis en Corse parce qu'ils pensaient qu'il y aurait une crique cachée, secrète, où ils pourraient construire un radeau illégal tranquillement. Mais évidemment, là-bas, ils étaient dans la survie, dans l'organisation de leur survie. Et il n'y avait pas du tout de place pour cette forme de délire, en fait.
Cette fugue de votre mère, Nicole Courtois-Higelin, Arthur H., elle est très documentée. Elle est documentée parce que je suppose qu'elle vous a elle-même donné la version des faits. Mais surtout, il y a des lettres de cette période qui témoignent. Et on lit ces lettres parce que vous les publiez dans votre livre Fugue au Mercure de France. C'est vraiment juste incroyable.
Déjà, c'est la collection de Colette, 13 et portraits, qui est aussi une collection iconographique, qui est plus ou moins autobiographique, mais c'est très libre, avec de l'iconographie, quoi. C'est ça le principe de la collection. Donc, et il se trouve que quand Colette m'a proposé un livre, j'avais très très envie de raconter cette histoire que je trouvais Voilà, une histoire d'enfant sauvage magnifique. Donc j'ai interrogé ma mère, évidemment, je l'ai enregistrée pour partir d'une matière. Et ensuite, elle a cherché dans ses vieilles affaires, elle a retrouvé un gros paquet que mes grands-parents avaient gardé avec toutes les putains de lettres de l'époque, magnifiques.
Ça s'est passé quand, justement, ça, cette découverte de ces lettres incroyables qui racontent cette fugue?
Il n'y a même pas un an, ouais.
Donc on est bien d'accord, quand vous, à 16 ans, vous décidez de fuguer, en laissant dans un papier froissé, j'ai bientôt 16 ans, je dois commencer à vivre, il faut absolument que je reste ici, ne vous inquiétez pas pour moi, Arthur, vous n'étiez pas du tout au courant de la fugue de votre mère.
Absolument pas, non, je l'ai appris très très nombreuses années après.
On va parler de votre fugue, Arthur H.
Navigateur solitaire, tu traverses les univers. Navigateur solitaire, tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Et si les vagues sont tes maîtresses, ta femme c'est l'infini, ni satellite, ni GPS, seule la belle étoile au ciel. Navigateur solitaire, tu as grandi les univers. Navigateur solitaire, tu quittes ton père. Corps de femme à languir, la lune s'allume qu'à pour toi, unique adorateur de l'univers.
Le réveil culturel avec Arthur H. Le 15 mars 1982. Chère maman, tu sais maintenant que je ne suis pas monté dans l'avion pour Paris. D'abord, pardonne-moi, mais sache que je reviendrai bientôt et que j'étais engagé comme mousse. C'est incroyable. On va parler de votre fugue. Vous avez parlé des fugues de Bach, de la fugue de votre mère quand elle avait 18 ans. Ça se termine par votre propre fugue. Vous n'avez pas 16 ans, Arthur H. Hein, ouais. Ce que vous racontez dans ce livre, donc édité au Mercure de France. Alors là, c'est un peu le contraire de ce qui s'est passé avec votre mère. Hein. C'est-à-dire, votre mère, elle voulait vraiment éclater la tradition qui l'étouffait à Argenteuil, sa condition, la vieille France ouvrière. Mmh. Vous êtes en vacances avec votre père, Jacques Higelin, dans la maison de son ami Coluche. Vous êtes avec votre frère Ken. Il va se passer des choses. Ils vont se lâcher, hein, les parents. Ils vont se lâcher, les parents. Vous allez vivre des événements que vous allez nous raconter. Est-ce que c'est ça qui décide, en définitive, de cette fugue? Est-ce que c'était le fait de voir vos parents, Coluche, faire des omelettes avec des produits stupéfiants qui fait que vous avez décidé de tout rompre et à l'âge de 16 ans, même pas 16 ans, d'aller jouer au navigateur pour reprendre le titre de ce morceau que vous avez enregistré en 2004, Navigateur solitaire.
Ouais. Non, c'est pas le fait de les voir, parce que moi j'ai toujours été assez naïf par rapport aux drogues, j'ai jamais vu ce qui se tramait vraiment... Tout ce qui est cocaïne et tout ça, ça m'est complètement étranger. Alors évidemment, j'ai fréquenté des milieux où les gens prennent pas mal, mais moi, j'en ai jamais pris et jamais vu les gens en prendre, quoi. Donc je suis quand même une espèce de naïveté. Non, là, c'est là, j'ai goûté le produit, là. J'ai goûté l'omelette aux champignons hallucinogènes, comme je dis, des champignons là-bas qui poussent naturellement sur les bouches de vache. On peut aller les cueillir à l'aurore ou l'après-midi ou n'importe quand. C'est des beaux champignons sur des belles bouches de vache. Et ces champignons sont assez puissants quand même. Ils changent complètement vos états de conscience. Et du coup, voilà, j'en ai pris avec mon père 2 jours avant de partir. Et c'était un voyage très, très déstabilisant et très beau aussi, très fort en tout cas, qui m'a simplement montré que l'univers était beaucoup plus vaste que ce que je pensais, quoi. Qu'il y avait quelque chose au-delà, des choses que je ne pouvais pas deviner, des choses que je ne connaissais pas, que l'univers était très mystérieux, très large. Voilà, le monde, la vie, et pas simplement résumé à ma petite vie de lycéen malheureux, voilà, qu'il était en technicolor, quoi. En gros, c'est ça.
Mais vous étiez un lycéen malheureux, Arthur H? Vous étiez malheureux d'avoir des parents 68 tard pour aller très vite? C'était ça le sens de ma question.
Bah, j'ai pas vraiment des parents. Enfin, si, j'avais des parents 68 tard, mais mon père, je le voyais quand même très très peu. Et ma mère, elle essayait d'être normale. C'était pas les orgies. Enfin, elle avait un boulot. Enfin, j'avais une vie normale. Hein. J'étais pas fils de hippie en communauté, tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Même si, évidemment, j'écoutais Antonin Artaud, les danses et tout ça.
Et Bob Marley.
Et Bob Marley, du reggae, ouais, beaucoup. Non, j'étais très malheureux au lycée, ouais, parce que, en fait, j'avais l'impression que j'apprenais rien. Et je trouvais ça très triste. Déjà que je me sentais comme vraiment ignorant de la vie, pas à côté de la vie. En plus que je devais aller au lycée où j'étais, on me rendait encore plus ignorant parce que je n'apprenais pas des choses qui me serviraient dans la vie. Donc je me sentais comme inutile dans cet endroit.
Et le fait d'être le fils de Jacques Higelin, peut-être que ça n'aidait pas trop à l'époque où...
Bah, ça, c'est vous qui le dites parce que, par exemple, au lycée, j'étais connu comme le fils de Jacques Higelin. C'est-à-dire, tout le monde me connaissait comme le fils de Jacques Higelin, sauf moi, en fait. Moi, je me voyais pas comme le fils de Jacques Higelin. Moi, j'étais juste Arthur. Je me voyais comme, j'étais assez discret, comme un étudiant parmi les autres. Je me voyais pas comme star du lycée. Or, je l'étais, mais sauf que tout le monde était au courant, sauf moi, en fait.
C'était pesant?
Bah, non, parce que j'étais pas au courant.
Bah, d'accord. Ouais.
Après, ça a été effectivement très, très pesant, assez longtemps, parce que, voilà, c'est devenu un mythe, et donc les gens vous projettent dans un mythe, et déjà qu'on vit dans l'illusion. Alors là, il y avait encore plus d'illusions, et puis il y avait encore plus de décalage avec la vraie réalité, avec cette espèce d'ambivalence terrible que voilà.
Mais est-ce que c'était le cas à ce moment précis quand vous décidez de fuguer, quand vous dites le désir de fuite, l'illusion que tout serait nouveau, l'envie de toucher la vraie vie, tout cela avait pris corps 2 jours avant notre supposé retour.
Ouais.
C'était pour échapper à cela ou c'était juste une envie de...
Bah, c'était surtout pour échapper à moi-même, hein, Oui, pour vraiment vivre. Voilà, j'ai toujours ce désir-là en moi, d'ailleurs, toujours aussi...
Et ce désir de mer, de devenir navigateur?
Oui, enfin, j'ai pas eu le désir de devenir navigateur, mais je dis pas, c'est vraiment pas loin d'être doué pour ça.
Ah, c'était juste un alibi pour faire votre fugue.
Non, il y avait quand même cette sensation d'aventure que j'avais sur le bateau, cette sensation de vagabond, comme ça, poétique, évidemment, de liberté, il y avait pas d'horaire. Il n'y avait pas très peu de contraintes. Et puis surtout cette sensation de découverte, de voyage, que chaque jour était neuf. La nature était absolument sublime tout autour. Elle était étincelante.
Ça a duré combien de temps, cette fugue?
Ça a duré 3-4 mois. Ouais, et puis après, je ne suis plus retourné au lycée.
Un grand tournant dans votre vie. Fugue.
Oui, bien sûr. Oui, c'était un grand tournant. Puis je raconte aussi.
C'est aussi fondatrice que le fut la fugue de votre mère pour votre mère.
Oui, bien sûr, parce que c'est un an zéro, quoi. C'est un an zéro de sa propre individualité. C'est le premier choix personnel. En plus, qui est un choix puissant, qui dit bon, je me casse. Bye bye, toi. Je quitte le rail, quoi. Je sors du rail avec ce désir un peu, évidemment, vain, mais en même temps très beau.
Vous avez raison de dire que c'est très beau, c'est même romanesque. Alors, ouais. Ce qu'il y a de romanesque, aussi bien dans votre fugue, Arthur H., que dans celle de votre mère, Nicole Courtois-Higelin, ce sont quand même les lettres, pour dire aux gens qu'on a quitté, qu'on continue à les aimer, et que cette fugue, c'est une histoire personnelle. Je me suis posé la question, et aujourd'hui, avec vos enfants, parce que je pense que l'histoire va se répéter, il n'y a plus de lettres de nos jours. Est-ce que vous appréhendez ce moment où vos enfants, à leur tour, vont passer par là, par la fugue, ou vous faites tout pour qu'ils ne fuguent pas?
J'ai un petit garçon de 12 ans et j'ai deux grandes filles, mais disons que mes filles, je les ai toujours énormément respectées, j'ai énormément respecté leur liberté. Donc à partir du moment où elles se sont pas senties emprisonnées dans quelque chose, elles ont pas besoin de le quitter violemment. Donc
vous vous sentiez emprisonné à un moment?
Ouais, moi je me sentais emprisonné dans moi-même, dans les circonstances, dans mon milieu, je me sentais complètement emprisonné, sinon je serais pas parti. Et puis aussi il y avait quelque chose de spirituel aussi dans le fait de prendre ces champignons, d'avoir accès à d'autres sens en fait. Alors je fais pas du tout l'apologie des drogues en général, ça m'est égal, mais ça, je trouve qu'en termes d'expérience pour la conscience, c'est quand même intéressant de montrer justement, si on le fait très rarement, que d'un coup la conscience peut développer complètement d'autres sens, qu'on peut voir les choses très différemment, et ça m'a montré ça m'a beaucoup troublé ça. Donc j'avais aussi envie d'explorer cette voie qui pour moi était la vraie vie. Et j'avais pas envie de me retrouver derrière un bureau de classe à m'ennuyer terriblement comme si j'étais à l'usine, quoi. Vraiment, pour moi c'était la même chose. Voilà, j'ai choisi la vie.
Et vous n'avez pas peur qu'un jour vous receviez un SMS de votre fils de 12 ans?
S'il a besoin de le faire, les enfants, faut leur faire confiance, hein. Je lui ferai confiance. Je serais peut-être plus inquiet que mon père l'a été pour moi, sûrement.
Oui, parce que ça l'a pas empêché de rentrer à Paris avec Coluche et votre frère.
C'est très drôle. C'est, avec le recul, c'est assez drôle. Bon, ma mère a évidemment été morte d'angoisse, mais pas lui, non, c'est sûr.
Fugue d'Arthur H, édité par le Mercure de France. Je rappelle que vous allez jouer, j'allais dire presque chez vous, le Cabaret Sauvage est chez vous.
Ouais.
Arthur H, le 15 juin.
Ouais.
On y sera. Merci d'être passé.
Merci beaucoup.
Mon général, mon général, mon général.
I am your general, baby. Come on and join my army.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Préhistoire, une énigme moderne au Centre Pompidou. Voyagez dans une histoire de regard et de fascination en présence d'icônes préhistoriques, modernes et contemporaines. Du mammouth de la Madeleine à Dove à Louche, en passant par Louise Bourgeois, cette exposition originale met en lumière le lien qui unit la préhistoire à l'art moderne et contemporain. Préhistoire, une énigme moderne, jusqu'au 16 septembre au Centre Pompidou à Paris. Un partenariat France Culture et France 4. Chez les 18-25 ans, 3 électeurs sur 4 ne votent pas aux élections européennes.
Je refuse de croire que l'Europe n'intéresse pas les jeunes. C'est juste qu'il faut changer la manière dont on en parle.
La journaliste Cécile de Kervas-Doué nous propose de porter la voix des jeunes électeurs.
La rédaction de France Culture part à la rencontre de ces jeunes européens. Leurs idées reçues sur l'Europe, leurs thèmes favoris, leurs habitudes numériques. Les journalistes se glissent dans la peau d'un jeune de 20 ans sur Instagram et vous font découvrir l'Europe à travers leurs yeux, leurs mots et leurs voix. 4 semaines thématiques, emploi, frontières, égalité, environnement.
Une série multimédia interactive sur France Culture, notre compte Instagram et franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une mobilisation unitaire qui pourrait n'être qu'une étape. Les fonctionnaires sont appelés à faire grève et à manifester partout en France aujourd'hui contre le projet de loi censé moderniser leur statut. Dans les cortèges également, des professeurs qui protestent eux contre la loi Blanquer, vous l'entendrez. Dans cette édition aussi, parole d'un médecin parisien. Il a signé une tribune hier soir avec une centaine de confrères contre le fichage de gilets jaunes blessés lors des manifestations ces derniers mois. Et puis nous irons en Israël comprendre la réaction du premier ministre Netanyahou Netanyahou. Après certains désengagements de l'Iran, le pays pourrait relancer son programme nucléaire et Israël s'inquiète. Les 9 syndicats de fonctionnaires appellent donc à la grève aujourd'hui, contestant la loi de transformation de la fonction publique. Des manifestations sont prévues dans une centaine de villes en France. Parmi les grévistes, je vous le disais, les enseignants seront mobilisés contre la loi Blanquer pour une école de la confiance. Le mois dernier, Emmanuel Macron annonçait pourtant qu'aucune école ne serait fermée sans l'accord des maires des communes. Une annonce qui n'a pas rassuré les syndicalistes, à l'image de Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU.
Emmanuel Macron, il a été obligé de faire quelques annonces, particulièrement celle sur l'éducation, hein, l'abaissement des effectifs dans les classes, plus de fermeture d'écoles, et puis quand même la revalorisation des enseignants. Nous le mettons bien évidemment à l'acquis des mobilisations qu'ont menées les personnels. Sans cela, Emmanuel Macron n'aurait jamais été sur le terrain de ces annonces. Alors, bien évidemment que ce que nous voulons maintenant, c'est que ces annonces, elles se concrétisent, mais qu'elles se concrétisent de manière juste, c'est-à-dire qu'il n'est pas question, par exemple, pour abaisser les effectifs ou pour ne pas fermer d'école, de prendre des postes sur d'autres classes du primaire ou sur le second degré. Et évidemment que nous allons très vigilants au budget tel qu'il sera établi. La revalorisation des enseignants, autre mesure annoncée par Emmanuel Macron, évidemment que nous demandons dès à présent à ce que Jean-Michel Blanquer ouvre des discussions avec les organisations syndicales sans tarder pour voir comment le gouvernement compte mettre en œuvre cette mesure. Donc oui, il y a des annonces, mais bien évidemment que maintenant, on ne doit pas se satisfaire des annonces et nous allons regarder de près les conditions de leur mise en œuvre.
Bernadette Groison de la FSU avec Manon Clavery. Les professeurs au sein de la contestation de la fonction publique, donc ce jeudi, les urgentistes également dans les hôpitaux, ils seront mobilisés. Ils dénoncent un fichage de certains de leurs patients et demandent son arrêt immédiat. Une centaine de médecins signent une tribune dans l'Express critiquant le fichier CIVIC pour système d'information pour le suivi des victimes. Lors des rassemblements de gilets jaunes, certaines personnes avaient porté plainte pour un fichage illicite. À Paris, la PHP avait alors reconnu que des précisions de nature médicale avaient été apportées de manière inappropriée dans ce fichier. Il avait dit corriger cette pratique. Il faut supprimer le fichier. Voilà ce que demandent maintenant les médecins signataires de la tribune. Parmi eux, le professeur André Grimaldi. Il est diabétologue à la Pitié-Salpêtrière.
Principe éthique, hein, les médecins prêtent serment de respecter absolument la confidentialité vis-à-vis de quiconque, des assureurs, de l'État, de la police, même si l'intention des personnes qui ont décidé n'était pas malveillante, il est urgent de dire non, pas question de ça. Parce que après, on s'habitue à ça. Il ne faut pas s'habituer à des choses inacceptables.
Parce que les informations permettraient effectivement d'identifier les personnes et vous sortiriez du secret médical.
Il n'est pas possible qu'on puisse, à partir de renseignements sur les personnes, leur physique, leurs habits, leurs blessures, pouvoir identifier des personnes. Alors même si c'est une hypothèse, il faudrait qu'il y ait une enquête, etc. Oui, c'est pas possible. Le médecin doit absolument respecter la confidentialité. Et donc la communauté médicale, toute opinion politique confondue, dit pas ça.
Plus de 3,5 millions de retraités recevront à partir d'aujourd'hui des trop-perçus de la CSG, soit près de 200 millions d'euros au total. Mesure votée en décembre dernier, parmi les mesures d'urgence qui avaient été annoncées par Emmanuel Macron au début de la contestation des Gilets jaunes. Elle concerne donc les retraités touchant entre 1 200 et 2 000 euros de pension par mois. Cela représente en moyenne 150 euros de remboursement par personne. Il y a eu Christian Estrosi, maire de Nice, puis le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui est plus récemment encore celui de Reims, Arnaud Robinet, tous retournés vers Emmanuel Macron, mais qui se rapprochent maintenant de leur parti d'origine, le parti Les Républicains. La faute sans doute à la campagne poussive de la liste de la majorité actuellement pour les européennes. Explication ce matin de Stéphane Robert.
Il y a 2 ans, ils avaient été séduits par Emmanuel Macron, par son ambition de faire de la politique autrement, au-delà du traditionnel clivage droite-gauche, et ils avaient pris leur distance avec leur parti, les Républicains. Mais aujourd'hui, ils rentrent dans le rang et annoncent qu'ils voteront pour le candidat LR, François-Xavier Bellamy, le 26 mai prochain. Parmi eux, le maire de Nice, Christian Estrosi, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinc, le maire de Reims, Arnaud Robinet. Et ce phénomène s'explique, selon le maire centriste de Vesoul, Alain Chrétien, par les difficultés que ces élus rencontrent dans leur ville avec les représentants locaux de La République En Marche.
Sur le fond des réformes, je pense qu'Arnaud Robinet ou Jean-Luc Moudin sont d'accord sur le travail de Bruno Le Maire, le travail de Gérald Darmanin, le travail d'Edouard Philippe. Mais dans la stratégie électorale locale, il y a sans doute des incompréhensions, des pressions qui ne sont pas acceptables. Je pense qu'il y a encore une certaine condescendance par rapport à ceux qui ne sont pas les marcheurs de la première heure, ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron par conviction au premier tour. C'est assez inquiétant parce que ces épiphénomènes montrent quand même une certaine fragilité dans la stratégie électorale de terrain de La République En Marche.
C'est la perspective des élections municipales de 2020 qui explique en grande partie ces revirements. Car c'est en ce moment qu'ils démarrent la campagne en souterrain, qu'ils mettent en place leur stratégie, qu'ils passent des alliances et les Républicains ont encore de nombreux relais sur le terrain, ce qui n'est pas le cas des marcheurs. Mais on peut voir également, de façon plus immédiate et conjoncturelle, qu'au sein de la droite centriste, un doute est en train de s'installer vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Doute sur sa capacité à s'imposer au niveau européen, à poursuivre les réformes entreprises et même à se faire réélire en 2022. Et en politique, le doute est un poison.
Alors Emmanuel Macron et sa majorité séduisent-ils encore? Pour France Culture, Rosalie Lafarge a interrogé des politologues spécialistes étrangers en Europe. Au début de son quinquennat, dans le désormais fameux discours de la Sorbonne, le président français promettait une refondation de l'Europe, ce qui avait pu susciter un certain espoir au niveau européen. Deux ans plus tard, où en est-on? Réussit-il à séduire encore? Analyse dans ce journal d'Yevgeny Daïnov, il est politologue, professeur à la Nouvelle Université de Bulgarie.
Je crois que les gens ici sont surpris par sa résilience. Il a survécu en termes de popularité, il a survécu aux gilets jaunes. Je pense que les gens sont étonnés par cette résilience, par sa souplesse et par sa capacité à prendre des décisions. En Bulgarie, de plus en plus de gens éduqués le voient comme un signal pour le futur de l'Europe. Il a plus de soutien qu'avant, il nourrit plus d'espoir chez les démocrates bulgares. Les gens le voient comme la renaissance d'une Europe qui se développe, d'une Europe en paix, démocratique, qui sait où elle va. Et je crois que les gens comme Salvini et Orban sont sur la mauvaise pente. Macron, lui, est sur le bon chemin, mais tout dépend de lui.
Emmanuel Macron arrive-t-il à convaincre les Européens? Les réflexions de ce politologue bulgare, mais aussi d'une Allemande, un Italien, une Grecque et un Belge, tout cela est à retrouver en longueur sur notre site internet franceculture.fr. Après la mise en garde de l'Iran face aux pays encore signataires de l'accord de Vienne de 2015 sur le programme nucléaire iranien, Washington durcit ses sanctions. Hier, en effet, Téhéran a annoncé ne plus limiter ses stocks d'eau lourde et d'uranium enrichi. Le pays attend de nouvelles promesses dans les 60 jours qui viennent, au risque de se désengager un peu plus de l'accord. Les États-Unis, qui se sont retirés, eux, de l'accord il y a un an maintenant, voient dans ces annonces une provocation. Alors Donald Trump a annoncé de nouvelles sanctions contre le secteur minier et contre l'acier iranien. Israël soutient Donald Trump. Benjamin Netanyahou est inquiet, lui aussi, de ces provocations iraniennes. Étienne Monin.
En Israël, cette annonce arrive le jour des commémorations pour les soldats tombés pour la défense de l'État, à la veille des célébrations pour l'anniversaire de la création de l'État d'Israël. Dans son discours, le Premier ministre a rappelé qu'Israël ne laissera pas l'Iran se doter d'une arme nucléaire. Depuis le début, Benjamin Netanyahou combat violemment l'accord international, officiellement convaincu que Téhéran travaille sur la bombe dans le dos des observateurs. Depuis l'arrivée de Donald Trump, le Premier ministre alimente l'administration américaine sur la voie à suivre. Quelques jours avant l'annonce du retrait américain de l'accord, Benjamin Netanyahou avait donné les derniers arguments à Donald Trump. Les deux leaders semblent s'accorder sur une stratégie de renversement du pouvoir iranien avec l'application des sanctions, sans exclure une intervention militaire en cas de maintien du pouvoir en place. Hier, l'ancien et peut-être futur ministre de la Défense a déclaré qu'il fallait se préparer en Israël à une possible attaque de l'Iran. Depuis un an et demi, Israël bombarde ouvertement les position iranienne sur le territoire syrien.
L'Afrique du Sud attend ce matin encore les résultats des élections législatives et régionales qui se sont déroulées hier. Elles devraient, ces élections, prolonger le règne du parti, l'ANC, parti historique de Nelson Mandela, et ce malgré le chômage, la corruption et la pauvreté qui affectent le pays. Nous revenons en France pour quelques mots de la météo. Seules les frontières du sud du pays seront épargnées ce jeudi par les averses. Il fait 12 degrés ce matin à Strasbourg et Lille, 13 à Paris et Bordeaux, 14 à Lyon, 19 degrés à Nice. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Il est 6h40, vous écoutez toujours France Culture et c'est l'heure de votre journal des idées, Jacques. C'est la journée de l'Europe en ce 9 mai. L'occasion d'un bilan, mais aussi dans la perspective des élections, d'une projection dans l'avenir.
Oui, alors un petit retour justement sur l'histoire. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, présentait sa proposition relative à une organisation de l'Europe centrée dans un premier temps sur la mise en commun des productions allemandes et françaises de charbon et d'acier. La déclaration Schuman est considérée comme l'acte fondateur de l'Union européenne. Depuis lors, bien de l'eau a coulé sous les ponts de l'Europe, dont le nombre n'a d'ailleurs cessé de croître. Mais cette histoire unique, en train de se faire sous nos yeux, n'a jamais provoqué l'engouement qu'elle mérite. L'idée de départ y est peut-être pour quelque chose, une gouvernance de technocrates qui ne serait pas liée par des engagements nationaux et partisans, œuvrant au bien de la communauté par-delà les intérêts particuliers des nations, et surtout une ambition politique en réserve, selon le principe que l'économie et le commerce l'amèneraient spontanément à s'affirmer. Or, cela n'a jamais vraiment fonctionné, souligne Guillaume Duval dans le mensuel Alternatives économiques, qui consacre un dossier au sujet, car cette histoire s'est très vite ensablée dans les contradictions et les pièges de la concurrence intérieure, celle notamment du moins-disant social qui pousse chacun des pays membres à abaisser le coût du travail pour exporter davantage chez ses voisins. Si un seul pays agit dans ce sens, il peut être gagnant. Mais si tous mènent la même politique, tout le monde est perdant parce que le coût du travail, c'est aussi le revenu des travailleurs et de leurs familles, ce qui enclenche le cercle vicieux d'une réduction de la demande intérieure, d'un ralentissement de l'activité et le chômage. Même équation sur la fiscalité, exonérer les plus riches pour éviter l'évasion fiscale ou la fuite des capitaux suppose d'alourdir la pression sur les classes moyennes avec des résultats identiques. Enfin, la règle d'une concurrence non faussée a entraîné l'arrêt des politiques nationales de soutien aux entreprises sans construire pour autant à la place une politique industrielle européenne. Résultat tel que résumé par Wolfgang Streck dans Le Monde diplomatique, pour la première fois depuis l'acte unique en 1986, des forces politiques conservatrices et nationalistes puissantes ne proposent pas de quitter l'Europe, mais de l'asservir à leur projet. Un défi qui s'ajoute à celui du Brexit et qui aggrave les tensions au sein d'un ensemble dominé par une Allemagne sans projet. Le directeur émérite de l'Institut Max Planck pour l'étude des sociétés analyse cette situation en termes de relations de pouvoir dans un contexte impérial avec une géopolitique du centre et des périphéries et dans le cadre du libéralisme autoritaire imposé par l'Allemagne. Et pourtant, elle tourne, comme disait Galilée. Philosophy Magazine apporte sa contribution au débat avec un dossier sur l'esprit européen. Alexandre Lacroix relève que toutes les grandes puissances carburent à l'autocongratulation, mais qu'on n'observe rien de tel en Europe. Pourtant, le continent aux anciens parapets, selon l'expression du latiniste Arthur Rimbaud, n'a rien à envier à la culture millénaire de la Chine. C'est peut-être que la faible légitimité démocratique de la construction européenne, et la démocratie est pourtant inscrite dans ses gènes, souffre d'un déficit symbolique. C'est ce qui manquerait à l'Europe, non pas tant une définition de ses racines qu'une formulation de son sens pour notre temps. Parmi les philosophes qui ont tenté de le penser, Husserl est sans doute celui qui est allé le plus loin à une époque particulièrement sombre. Dans une conférence prononcée à Vienne en 1935 et publiée sous le titre « La crise de l'humanité européenne et la philosophie », il évoque le monde ambiant du continent, l'ensemble de représentations et de valeurs qu'il secrète en nous et dans notre histoire. Bref, son horizon d'attente. L'Europe spirituelle, affirme-t-il, possède un lieu de naissance, c'est la nation grecque ancienne au 7e et au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est en elle que se développe une nouvelle sorte d'attitude. Elle se manifeste dans l'intérêt pour le tout et du même coup la question du devenir et de l'être en devenir qui sont à l'origine de la philosophie. L'humanité européenne se déploie historiquement, selon Husserl, avec l'ambition de saisir par la pensée le tout du monde. Il y avait également une science en Chine ou en Inde, mais c'est seulement chez les Grecs que nous trouvons un intérêt vital universel, cosmologique, souligne Husserl. Conclusion, la crise de l'existence européenne ne peut avoir que deux issues, ou bien le déclin de l'Europe devenue étrangère à son propre sens rationnel de la vie, la chute dans la haine spirituelle et la barbarie, ou bien la renaissance de l'Europe à partir de l'esprit de la philosophie grâce à l'héroïsme de la raison, et Husserl d'ajouter que le plus grand danger de l'Europe est la lassitude. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, les élections en Afrique du Sud.
Voilà, élections générales hier qui doivent déterminer aussi le camp du futur président. Vous découvrirez les résultats définitifs au fur et à mesure de la matinée dans les journaux de France Culture. Mais d'ores et déjà, l'ordre politique habituel ne semble pas bouleversé. L'ANC, parti de l'ancien président Nelson Mandela, devrait sortir gagnant de ces sixièmes élections depuis la fin de l'apartheid. ANC dominante 25 ans après, mais qui peine aussi à sortir des affaires de corruption. Domination en trompe-l'œil, donc on voit ça avec vous, Marianne Séverin. Bonjour.
Bonjour.
Politologue, chercheuse associée au LAM de Bordeaux, spécialiste de l'Afrique du Sud, bien sûr. Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Alors, l'ANC dominera-t-elle encore ? Une chose est sûre, pendant la campagne, les deux principales formations concurrentes de l'ANC appelées au changement en l'accusant de vol. Le président Cyril Ramaphosa a dû aussi reconnaître, je le cite, des erreurs. Alors, après 25 ans de pouvoir, si on s'oriente vers une victoire de l'ANC, ce ne sera pas une consécration, hein ?
Pour l'instant, je parlerai au conditionnel parce que on est seulement à 17%, un peu plus de 17% des dépouillements. Et nous aurons les résultats définitifs. Donc pour l'instant, l'ANC est à 53,63%. Ça signifie, oui, que nous n'allons peut-être pas avoir une consécration. L'Alliance démocratique se maintient bien parce qu'à l'heure où je vous parle, elle est à 27,36%. Et ce qui est étonnant, c'est le parti de Julius Malema qui ne fait que 7,8%. Donc la bataille est en train de se faire entre l'ANC et l'Alliance démocratique, mais l'ANC sera toujours au pouvoir.
ANC, Alliance démocratique qui sont en train de monter. Ce parti, le parti de la liberté économique de Julius Malema, qui tient des propos très extrêmes, qui surprend par son score faible, ça veut dire que là, on peut dire qu'on s'oriente vers un vote au centre, finalement, aussi.
On peut le considérer comme ça, mais alors, je vous dis sincèrement, comme nous sommes à moins 18% des dépouillements, ouais. Je préfère ne pas trop m'avancer et je suis également en train de regarder ce qui se passe au niveau des provinces. Alors, il y a la province du Roteng où l'ANC est en tête et l'Alliance avec 53%, 52%, l'Alliance démocratique à 24%. Le parti de Julius Malema à 13%, 76%. La province du Western Cape, naturellement, l'Alliance démocratique est en tête. L'ANC tout de suite derrière avec 25%. Et on a un petit nouveau, le nouveau parti de Patricia Delisle, ancienne de l'Alliance démocratique, qui n'a que pour l'instant 3,48%. Et le fief de Jacob Zuma, le KwaZulu-Natal avec 53,86% pour l'ANC et l'Inkatha Freedom Party avec 22% et les Alliances démocratiques 12%. Le parti de Julius Malema n'est pas représenté pour l'instant.
Eh bien écoutez, je pense que c'est des résultats assez clairs. En tout cas, je retiens aussi ce que vous avez dit au début sur la province du Roteng, où se trouve Johannesburg, qui est une des provinces les plus peuplées. L'ANC conserverait sa prééminence dans cette zone, alors qu'on disait que l'Alliance démocratique pouvait lui prendre la première position. Ça veut dire que malgré les affaires de corruption de ces dernières années, liées notamment à l'ancien président Jacob Zuma, l'ANC remporte le test de popularité au niveau national, encore une fois, avec tous les conditionnels des futurs développements du scrutin.
Oui, mais alors je voudrais Enfin, je voudrais plutôt montrer la complexité. C'est qu'on va parler de l'ANC de Cyril Ramaphosa, parce que les résultats qu'on a là actuellement sont dus au charisme de Cyril Ramaphosa et au fait qu'il est il est mené une très bonne il est très bonne campagne. Imaginez si ça avait été Nokazama de Lamini Zuma qui avait été sa rivale lors des élections interne en décembre 2017, si ça avait été elle qui avait gagné les élections du parti et donc était en position de devenir présidente du pays, je peux vous assurer qu'on serait largement en dessous de 50%.
Et donc, qu'est-ce que ça signifie concernant le charisme de Ramaphosa? Parce que vous avez raison de souligner qu'effectivement, il est arrivé assez récemment dans le paysage politique, en tout cas à la tête de l'ANC et à la présidence de la République à la faveur de la démission de Jacob Zuma en 2018.
Alors, ça signifie, comme vous l'avez mentionné au début, c'est qu'il a reconnu qu'il y a eu des erreurs et surtout de la corruption au sein du parti, du gouvernement. Il y a une page qui se tourne, mais ça signifie aussi qu'il va devoir donner des gages parce que en devenant président de la République sud-africaine, il va devoir mettre en action ce qu'il a dit et notamment ne pas intégrer à son gouvernement des gens qui sont entachés de faits de corruption et ces gens qui, a priori, étaient bien placés sur les listes pour l'Assemblée nationale, la liste de l'ANC. Là, il va falloir dans quelques jours surveiller la constitution du gouvernement de Cyril Ramaphosa.
Et se battre peut-être contre une partie de l'ANC. On dit beaucoup qu'il y a cette division entre ceux qu'on appelle les bons, les réformistes, on va dire, et puis les méchants, ceux qui faisaient partie du clan Zuma. Là, tout récemment, il y a encore le secrétaire général de l'ANC, Haché Magashule, qui a été éclaboussé par des affaires de corruption de l'époque où il était gouverneur de la province de Free State aussi. Et est-ce que il va pas être pris entre le marteau et l'enclume, là, comme le disent certains, Ramaphosa?
Oui, mais alors il aurait peut-être la stratégie pour sortir de ce marteau et de l'enclume, c'est finalement avoir pour vice-président une certaine Nokazama de Lamini Zuma, parce que son nom est en train de sortir. Alors,
donc son ancienne rivale.
Oui. Son ancienne rivale, parce qu'en fait, ça serait une sorte de réconciliation. Et son défaut à Nokazama de Lamini Zuma, c'est de s'appeler Zuma. Mais a priori, on l'a jamais accusé de corruption. L'erreur qu'elle a faite, c'était d'avoir accepté le soutien de son ex-époux. Donc peut-être que ça pourrait être une solution, mais surtout qu'il ne prenne pas le vice-président de l'ANC pour devenir le vice-président du pays, parce que ça lancerait un mauvais signal.
Oui. Deux propositions encore sur les enseignements a priori de ce scrutin. Le fait que les Economic Freedom Fighters donc ne fassent pas un score aussi éclatant qu'annoncé. Est-ce que c'est l'échec, on pourrait dire, du radicalisme un peu raciste et de cette stratégie de son leader, Julius Malema? Et le fait que les libéraux, là, justement, la Democratic Alliance, aille a priori au-dessus de autour de 25%, ça montre qu'elle continue son ascension depuis très longtemps.
Exactement, et ça montre aussi que finalement, cette jeune démocratie sud-africaine est assez mature et n'a pas envie d'un retour en arrière avec les discours populistes, avec cette forme de racisme, cette forme de sexisme, hein, parce que souvent on parle de racisme, faut pas oublier que Julius Malema et ses compagnons sont pas particulièrement tendres avec les femmes, notamment quand elles sont journalistes. Donc c'est assez fascinant, comme vous disiez tout à l'heure, finalement l'Afrique du Sud se situe plutôt dans un centre, voilà, une idéologie politique plutôt basé au centre. Alors on fait plutôt centre-gauche, mais avec Cyril Ramaphosa, on va voir si ça tourne plutôt vers la droite. Difficile à dire pour l'instant.
Alors peut-être un des effets les plus tangibles, enfin les analystes politiques le diront, de la montée reflet de ces classes moyennes sud-africaines ces dernières années, pour le coup. Il y aura la bataille économique ou le défi économique très important. Et puis quand même, une grande inconnue, c'est la participation à ce scrutin. Est-ce qu'on a des données et c'est très important, ça.
Oui, alors seulement 64%, un peu plus de 64% des Sud-Africains ont été votés, et il s'avère qu'une grande part des jeunes n'ont pas été votés.
6 millions n'étaient pas inscrits déjà, effectivement.
Voilà, ce qui signifie que ils n'ont pas l'air de comprendre qu'il est important d'aller voter. Surtout dans un pays qui a une histoire très particulière.
Bon, ils ne sont pas allés voter pour l'ANC, ils ne sont pas allés voter pour ce parti Economic Freedom Fighter non plus. Effectivement, ce centre fascinant, on aura l'occasion d'en reparler. Et merci beaucoup pour vos analyses et vos chiffres si précis ce matin, Marianne Séverin, politologue, chercheuse associée au LAM de Bordeaux. Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Engagez-vous aux côtés de la Fondation Musique et Radio, Institut de France créé par Radio France. C'est en soutenant les actions de la Fondation que vous pourrez contribuer au rayonnement de la musique en France et à travers le monde, à la création et à l'éducation des jeunes générations en participant à l'éveil musical des enfants, au programme en faveur de l'égalité des chances ou encore à l'apprentissage du chant choral. Engagez-vous et donnez à tous les clés d'accès à la musique. Toutes les infos sur maisondelaradio.fr/mécénat.
Nouveau sur France Culture, l'épingle du jeu. Nouvelle émission de jeux littéraires et d'humour avec sa joyeuse bande des épinglés rassemblée autour d'Odile Conseil. Jouons avec les mots, la grammaire, les références littéraires et même le langage des réseaux sociaux sur un air de fantaisie. À chaque rendez-vous, un thème et son grand invité. Venez découvrir l'épingle du jeu en public lors du festival Imagine au Centre Pompidou à Paris les 11 et 12 mai à 20h. Gratuit sur réservation maisondelaradio.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, on quitte le néo-Moyen-Âge pour revenir dans l'actualité avec les matins de
Mais
Guillaume Herneuf.
Mais absolument, bonjour, Xavier Guillaume. Martinet, bonjour à toutes, à tous et à vous Xavier.
Et avec cette bonne nouvelle, Romain Gary entre dans la Pléiade.
Avec quand même un vrai problème pour tous ceux qui pensent que le papier Bible dont est fait la Pléiade n'est effectivement pas fait pour être lu, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais pour le reste, quelle bonne nouvelle. D'abord, un démenti de plus pour tous ceux qui, depuis des plombes, luttent pour ghettoiser la littérature entre la littérature savante, fréquentable et souvent sinon illisible, du moins lue par peu de monde, et ceux qui aiment la littérature tout court. Finalement, les romanciers du XXe siècle qu'on lit au XXIe sont ceux que l'université a bien souvent rejetés. Camus, Simenon, Gary, dans des genres, des horizons très différents, tandis que d'autres, que par charité matinale, je ne vais pas citer, se retrouvent abandonnés chez les bouquinistes. Et pour le reste, Gary, c'est un autre formidable pied de nez à tous ceux qui pensent que l'identité est une et assignée une fois pour toutes, car dans sa vie et sous sa plume, Gary a absolument tout été puissant et impuissant, vivant et suicidé, riche et misérable, juif comme une synagogue et goy comme Notre-Dame, courant après les femmes et dominé par le démon des femmes, clochard céleste et se délectant des honneurs qu'il pouvait recevoir. L'histoire de Romain Gary est connue, chacun sait qu'il s'agit d'un homme qui aimait par-dessus tout les pseudonymes, épuiser les identités les unes après les autres. Romain Gary, le seul écrivain que l'on trouve affublé sur Wikipédia du métier d'aviateur, et Dieu sait si Malraux a essayé de voler toute sa vie, le seul écrivain aussi à avoir deux fois le prix Goncourt, une fois sous le nom d'Harry, l'autre fois sous le pseudonyme d'Ajar. Romain Gary, alias Émile Ajar, donc, Chatan Bogat, Fosco Sinibaldi, Romain Gary, qui n'est évidemment pas né Romain Gary, mais Roman Cassiou, oui, Cassiou, en yiddish litvak, je traduis pour les vivants la langue des morts, ça veut dire boucher, et un écrivain ne pouvait pas être boucher. Alors Gary en russe, ça veut dire briller, et puis Gary, c'est aussi Gary Cooper. Et Gary a joué 1000 rôles dans sa vie: aviateur, résistant, compagnon de la libération, diplomate, scénariste, romancier, mégalo et humble. Gary qui disait: qu'est-ce donc que l'amour sinon une œuvre d'imagination? Voilà pourquoi il n'a absolument jamais cessé d'aimer.